Le point.
Les Contrariantes, un podcast bimensuel dédié à l'échange d'idées présenté par le magazine Le Point avec
Peggy Sastre
et Laetitia Strauch-Bonnard. Dans cet épisode, nous revenons sur le phénomène MeToo et la dite Tribune de Neuve défendant la liberté d'importuner, discussion que nous poursuivons avec Catherine Millet, l'une des co-rédactrices de la Tribune. Bienvenue chez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Une émission où toutes les deux semaines, Peggy Sastre et moi-même commentons l'actualité puis débattons avec un invité. Bonjour Peggy.
Bonjour Laetitia.
Notre sujet du jour, MeToo et la Tribune de Neuve, 3 ans après. Je précise que c'est une émission anniversaire car elle sera diffusée le 8 janvier et le 8 janvier, c'est 3 ans, jour pour jour, après la publication de ce qu'on a appelé la Tribune de Neuve, mais qui, en réalité, a été coécrite par un certain nombre de femmes, dont toi, Peggy. Donc, je te laisse nous présenter le sujet.
Eh bien, effectivement, comme tu le rappelles, cette émission sera diffusée le 8 janvier et pour ce premier numéro de 2021, nous avons voulu un peu marquer le coup en vous proposant un podcast avec une thématique unique, à la fois dans la première et la seconde partie. On sera monothématique, mais ne vous affolez pas et surtout ne partez pas tout de suite parce que voilà, c'est un thème ô combien large et qu'on ne traitera pas de manière exhaustive. Et pourquoi en cette date? Eh bien aussi, Laetitia s'est bien gardée de le rappeler, mais c'est l'anniversaire de Laetitia. Et donc, elle mérite bien qu'on fasse quelque chose d'un peu foufou à cette occasion.
Je suis très touchée, Peggy, mais je dois ajouter quand même que le 8 janvier, c'est aussi la Saint-Peggy.
Effectivement.
Donc, bonne fête, Peggy.
Eh bien, merci bien.
Quelque chose de foufou pour toi aussi, tu vois.
Complètement, ouais. Et donc, le deuxième point, c'est qu'en plus du vaccin contre le Covid que tout le monde attend, il bruisse que 2021 sera l'année d'une nouvelle déferlante d'un type de féminisme que nous regardons, Laetitia et moi, avec beaucoup de scepticisme. Pour ma part, ce scepticisme s'est notamment exprimé dans la Tribune donc des femmes, on en parlera tout à l'heure, « Des femmes libèrent une autre parole » qui a été publiée dans Le Monde le 8 janvier 2018, soit effectivement 3 ans jour pour jour. Ce qui fait voilà, qu'on va parler de MeToo et de la longue traîne de MeToo. Donc pour le présenter en deux mots, même s'il s'agit, comme le veut la formule, d'un mouvement qu'on ne présente plus, MeToo c'est un hashtag, c'est-à-dire un mot-clé des réseaux sociaux. Donc ça s'écrit dièse M-E-T-O-O, donc MeToo comme moi aussi en anglais. C'est apparu sur Twitter en 2007. Ça a été lancé à l'origine par la militante américaine Tarana Burke comme une chaîne de solidarité entre victimes de violences sexuelles. Et Tarana Burke explique en fait avoir eu l'idée de ce hashtag en se rappelant comment en 1996, donc elle est militante et elle est aussi éducatrice auprès des jeunes en difficulté et notamment noirs, comment est-ce qu'elle avait été incapable de dire « moi aussi j'étais agressée » à une adolescente de 13 ans qui venait lui dire qu'elle avait été violée. Donc pendant 10 ans, voilà, entre 2007 et 2017, il y a eu quelques ricochets sur les réseaux sociaux, avec aussi différents noms. Mais en fait, le mouvement a vraiment décollé en 2017, à la suite de l'affaire Weinstein, quand des actrices et autres personnalités, donc il y a eu Alyssa Milano, Agir Argento, entre autres, qui déclarent donc avoir elle aussi été victime, donc que ce soit du producteur qui a été condamné donc le 11 mars 2020 à 23 ans de prison ferme pour viol et agression sexuelle, ou avoir été victime d'autres personnes, qu'elles nommaient ou non. C'est quelque chose qu'on mentionne moins souvent, parce que souvent effectivement, le mouvement MeToo est rattaché à l'affaire Weinstein. Mais je pense, voilà, et je ne suis pas la seule à le penser, qu'en fait, le succès du mouvement MeToo a été galvanisé par la victoire de Donald Trump en 2016 et qui était investi en janvier 2017. Et donc, au moment de cette investiture, il y avait eu beaucoup de manifestations assez massives de féministes dans plusieurs villes américaines. Parce qu'en fait, les féministes et les femmes, et des femmes, étaient indignées qu'un homme accusé par plusieurs femmes d'agression et aussi connu pour des formules et des sorties jugées très sexistes, voire misogynes, puisse être élu président. Donc 3 ans après, on arrive en janvier 2021, donc Donald Trump a été battu, Joe Biden a été élu président, et il sera investi lui aussi en janvier 2020, et lui aussi il est accusé de viol et de divers comportements inappropriés avec des femmes et des jeunes filles. Donc voilà, est-ce qu'il y aura aussi des Women March après son investiture? Les paris sont ouverts, mais en attendant, et pour célébrer moi aussi ce grand mouvement de libération de la parole des femmes, je te la laisse.
Très bon, Peggy, comme toujours. Écoute, Il y aurait tant à dire sur MeToo qu'il faut bien commencer quelque part. Alors, moi, je dois dire que ce qui m'a le plus frappé à l'époque et encore maintenant, et donc c'est devenu un lieu commun, mais je le rappelle quand même, c'est que MeToo a englobé des revendications, ou plutôt avant des revendications, des critiques et des plaintes qui couvraient tout type d'agissement masculin, qui allait du viol à, disons, la drague lourde. Et moi, c'est ce qui m'a tout de suite rendue extrêmement méfiante, parce que je ne vois pas très bien comment on peut défendre les femmes qui sont victimes de viol et de harcèlement sexuel caractérisé si on met tout le monde dans le même sac. Et en tant que femme, moi, évidemment, il m'est arrivé de subir moult drague lourde, voire quelques tentatives, voilà, alors pas d'attouchement, mais des tentatives tout simplement de rapprochement physique. Je n'aurais même pas l'idée que ça puisse ensuite donner lieu de ma part à une plainte, et d'autant plus sur un réseau social. Donc, il y avait ce premier point, en fait, qui me gênait beaucoup à l'époque. Et ce qu'on a vu très vite se dessiner, c'est qu'en fait, MeToo, c'était une sorte de monde parallèle où la justice ne comptait plus et où la parole de la victime présumée comptait plus, en fait, que la procédure juridique qui permet de savoir, en fait, si on peut condamner quelqu'un. Alors, je ne dis pas que la justice a toujours raison. Il y a beaucoup d'erreurs judiciaires, et je conviens tout à fait que dans les affaires de harcèlement ou de viol, il y a beaucoup d'erreurs, et c'est très important qu'on les corrige. Mais je trouve aussi assez inquiétant qu'on ait décidé comme ça de se débarrasser de la procédure légale et du droit, tout simplement parce que le droit ne semblait pas satisfaisant. Le problème, c'est ce qu'on a proposé à la place avec MeToo était encore moins satisfaisant. C'est-à-dire, ce n'était pas seulement accuser des hommes de pouvoir, parce qu'au début c'était ça, mais après ça a été accusé un peu tous les hommes qui semblaient aux femmes qui en parlaient avoir eu des comportements inappropriés. Donc voilà, là, en disant tout ça, je ne dis rien de nouveau, mais je suis quand même assez surprise qu'à l'époque, il y ait eu peu de critiques de ce type. Bon, à part évidemment la tribune dont on parlera tout à l'heure, mais que, en fait, le mouvement ait été salué voilà, comme quelque chose d'absolument extraordinaire. Est-ce que tu partages ce constat, Peggy ?
Ah bah absolument. Moi, c'est l'une des premières choses, en fait, qui m'a vraiment dérangée avec MeToo, c'est justement ce nivellement de toutes les situations. Donc, en gros, ça va du regard en coin au viol en réunion avec acte barbarie. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais beaucoup insister, c'est que si je suis encore très critique du mouvement of MeToo, c'est justement parce que je prends le viol très au sérieux et je sais que c'est un crime très grave pour les gens qui en sont victimes, etc. Et justement, voilà, ce grand paquet de toutes les agressions sexuelles, toutes les agressions ou de type plus ou moins sexuel, non pas se valent, mais en fait... C'est ce qu'on voit avec le concept féministe qui s'appelle le continuum des violences. En fait, c'est à la fois dérangeant et contre-productif.
Ça, c'est évident. Je ne connaissais pas ce concept, donc c'est en effet assez approprié en fait, à MeToo. Moi, il y a autre chose aussi qui m'a beaucoup frappée, et d'ailleurs qui me frappe encore plus maintenant, notamment parce qu'il y a ce documentaire qui est sorti, qui s'appelle Chambre 2806, sur l'affaire DSK, enfin les affaires DSK, mais notamment celle du Sofitel, où une femme de chambre, Nafissatou Diallo, a accusé Dominique Strauss-Kahn de viol, hein, alors qu'il était encore président du Fonds monétaire international. On dit maintenant, quand ce documentaire sort, « Ah oui, si ça avait été après MeToo, ça aurait été différent. » Ou bien au contraire, « Oui, on voit bien que c'était avant MeToo, c'était le monde d'avant. » Et alors, je trouve qu'il y a quelque chose de très bizarre dans cette réflexion, qui est qu'on fait comme si MeToo avait révélé que le viol était quelque chose de mauvais. On fait comme s'il y avait un avant MeToo où nous vivions dans une société barbare et où personne ne critiquait le viol et le harcèlement sexuel, et que maintenant, grâce à MeToo, nous sommes tous très conscients et très éveillés. Or, on sait très bien, et Peggy, je pense que tu es très bien placée pour le savoir parce que tu connais très bien la biologie évolutionnaire et la psychologie comportementale, mais le viol est un tabou. Depuis très longtemps, depuis, je dirais, même le début de l'humanité, pour des raisons peut-être que tu pourrais expliquer, mais ça n'est pas du tout MeToo qui a inventé l'interdiction du viol. Et ce qui m'amène à la réflexion suivante, qui est que j'ai l'impression que ce qui a changé en revanche avec MeToo, c'est la peur. C'est-à-dire que maintenant, les hommes et les femmes, et bon, surtout les hommes, n'osent plus du tout, disons, ne faire aucune réflexion, même aucune plaisanterie, par exemple, sur le sujet, ou se comporter d'une manière qui, encore une fois, ne serait ni du harcèlement, ni du viol, mais une sorte de drague lourde. Mais non pas parce qu'ils ont conscience que ça n'est pas forcément une bonne chose pour la femme ou l'homme concerné, mais parce qu'ils ont peur. Et en fait, je ne vois pas très bien en quoi on peut se réjouir de cette évolution si cette évolution n'est due qu'à la peur et pas à la conscience intime que, eh bien, on peut porter préjudice à autrui.
Ah ça, je suis absolument d'accord. Encore une fois, ça ne sera pas un podcast pour le moment très contrariant entre nous.
Oui, mais on est avec la Terre entière. Écoute, on est contrariant.
Voilà, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un propos voilà, qu'on entend répéter et répéter, genre « Ah oui, maintenant c'est bien parce que les hommes ont peur. » Comme s'il y avait quelque chose de positif, d'intelligent, de socialement positif, productif, tout ce qu'on veut, qui puisse sortir de la peur. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a très vite, avec MeToo, qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'en fait, on était en train de créer un nouvel écosystème où en fait, les gens, donc on va se focaliser sur les hommes un peu balourds, un peu, voilà, qui savent pas trop comment draguer, etc., vont avoir peur et vont être timides. Enfin bref, que ce mouvement MeToo allait juste, en fait, avoir comme effet que ces types, voilà, un peu maladroits, etc., allaient juste ne plus jamais oser avoir l'envie de peut-être un jour exprimer un désir sexuel pour quelqu'un d'autre, mais que, à l'inverse, ça allait favoriser en fait les vrais prédateurs sexuels qui eux sont voilà savent très bien cibler leurs victimes en ciblant justement des filles et des femmes pas crédibles ou trop jeunes ou malades mentales ou handicapées. Ça aussi c'est un on le dit un peu quand même mais que les handicapés sont beaucoup victimes d'agressions et de viols parce que justement elles sont vulnérables et ce sont des cibles privilégiées pour les prédateurs sexuels. C'est encore une fois le côté contre-productif de la manœuvre qui m'a sauté aux yeux parce que qui a peur dans l'histoire, ben c'est pas les prédateurs. Les prédateurs, ils s'adaptent toujours. C'est l'histoire de l'évolution, c'est la reine rouge. Comment est-ce que les prédateurs et les proies sont dans une course effrénée d'adaptation, de contre-adaptation, etc. Et les gens du milieu, ça sera eux qui sont détruits, entre guillemets, dans la manœuvre.
Oui, et on parlait de peur et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que de l'autre côté de la peur, donc la peur du côté des hommes, de l'autre côté de la peur, il y a du côté des femmes, je trouve, à la source de MeToo, en tout cas de celles qui l'ont soutenue, une forme de ressentiment. Je dis ça parce qu'on a l'impression qu'il y avait une sorte de vengeance, il y avait une recherche de vengeance collective qui dépassait largement les cas personnels, qui était évidemment décuplé par l'utilisation des réseaux sociaux. Et donc, pour compléter ce que tu dis, je ne vois pas ce qui peut sortir de bon, du ressentiment ou de la vengeance. Ça peut être le début de quelque chose, mais ça ne peut certainement pas être la fin. C'est ça qui me frappe aussi, c'est que MeToo a beaucoup détruit, mais MeToo n'a rien construit. MeToo n'a rien proposé de vraiment positif ou d'affirmatif. Il n'y a rien d'affirmatif, en fait. C'est juste du négatif. Et en fait, on peut avoir une explication quasiment nietzschéenne, en fait, de ce qui s'est passé. Chez Nietzsche, le désir de puissance peut s'incarner de deux façons différentes. Il y a la façon négative, qui est le ressentiment, et puis il y a la façon positive. Et clairement, là, on était et on est encore dans du pur négatif. À mon avis, une des raisons de ça, mais c'est une hypothèse, hein, c'est que, comme je le suggérais, il y a beaucoup de femmes qui ont donné l'impression d'avoir investi politiquement des sujets qui étaient d'abord des sujets personnels. Et c'est comme si on assistait à une sorte de retournement, en fait, de ce qu'était le féminisme dans les années 70. Dans les années 70, il y avait ce slogan qu'on entendait beaucoup qui était « le personnel est le politique ». Le personnel est politique. C'était un slogan féministe important. Et ça voulait dire que, en fait, tous les problèmes que les femmes pouvaient rencontrer dans la sphère privée avaient des origines et des causes politiques globales, qu'il fallait les traiter de cette façon. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on fait le contraire. On dit « le politique est personnel ». On se dit que si les femmes ont des difficultés, disons, au plan social ou disons, politique, eh bien, la cause est d'abord privée. Donc, il faut aller exposer ces affaires privées dans la sphère publique et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Mais j'ai l'impression que c'est très étrange, en fait, comme mouvement, comme ambition. Je ne dis pas que les femmes qui ont participé ont tout réfléchi comme ça, mais c'est en tout cas l'impression qu'a donné ce mouvement.
Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie, en fait, du questionnement civilisationnel que MeToo a posé. Le fait de le présenter comme une question, en gros, voilà, d'opposition d'hommes contre les femmes, ça a manqué le nœud du problème, qui est en fait un problème civilisationnel. C'est ce que tu disais plus tôt, c'est qu'en fait, au lieu d'améliorer l'état de droit, qui est un des piliers du progrès et de la paix sociale, on en est revenu et on en revient à des logiques moyenâgeuses, en fait, c'est-à-dire la menace à la réputation, l'ostracisme, le potin méchant, la pensée de village, etc. Voilà, tout le monde se regarde, se surveille. Et justement, on ne règle plus ces conflits par la justice. Donc, il y a effectivement ces défauts, etc. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. On ne règle pas, comment dire, si tu as une maison qui est branlante, tu règles rien en la démolissant, en fait. Il faut la rénover. Il faut boucher les trous. Je vais arrêter avec cette métaphore pourrie.
Moi, elle est très bien.
Ouais. En fait, tout ce qui est cette espèce de retour de refoulé, du refoulé qu'il y a eu avec MeToo, moi, ça m'a beaucoup amusé, par exemple, qu'on me traite, ou je pense que toi aussi, de réactionnaire, parce qu'on était critique, et on est toujours critique de MeToo, etc.
Bien sûr.
Parce qu'en fait, ce que MeToo propose, enfin, semble proposer, c'est en fait, justement, de revenir à des logiques complètement ancestrales et moyenâgeuses, et pour le coup, hyper réactionnaires et vieillottes. Et on sait qu'elles ont fait l'épreuve de leur nocivité, quoi.
Oui, et puis, si on parle de civilisation, moi, j'ai aussi l'impression que, plus généralement, les femmes, en tout cas, ou certaines femmes, ou les femmes qui se sont exprimées dans ce mouvement, donc elles étaient quand même très nombreuses, ne savent pas comment être libres. Parce que la liberté dont elles peuvent jouir ne leur semble jamais convenable. C'est comme si, finalement, la soumission avait duré tellement longtemps, en tout cas dans leur vision hein, du monde, qu'elles ne savaient pas vraiment comment s'emparer de leur liberté. Et c'est sûr que la liberté, c'est difficile. La liberté, ça implique que, oui, on peut tenter des choses dans nos relations aux autres, mais les autres vont aussi tenter des choses avec nous. Et ça, c'est aussi un des paradoxes de la liberté sexuelle. C'est que la liberté sexuelle, pour les femmes, c'était avoir les mêmes opportunités que les hommes, mais je pense que certaines n'ont pas vu qu'elles auraient aussi les mêmes risques. Or, est-ce qu'il est tout à fait possible ou souhaitable que les femmes soient soumises exactement au même risque que les hommes d'un point de vue sexuel? Je pense que certaines femmes diront oui, elles en assumeront complètement les conséquences. Et pour moi, les signataires de la tribune, justement, sont de telles femmes. Enfin, tu me diras si je me trompe. Hein. Il y a d'autres femmes qui ne sont pas d'accord avec ça, qui diront non, la liberté sexuelle implique trop de dangers pour une femme, mais elles en tirent aussi les leçons. Et peut-être qu'elles ne voudront pas courir autant de risques, donc elles n'accepteront pas autant de liberté. Mais ce qui me gêne, et ce qui m'a gêné dans MeToo, c'est qu'il n'y a eu aucune réflexion là-dessus. Et que d'une certaine façon, les femmes disaient au monde entier, on veut tous les avantages de la liberté sexuelle, mais on ne veut aucun de ses inconvénients.
Ça a commencé avant MeToo, c'est tout ce féminisme que je trouve voilà, contre-productif et idiot et aveugle à des éléments notamment biologiques. C'est par exemple tout ce qu'il y a autour du slut-shaming. Donc le slut-shaming, c'est comme toujours dans ces mouvements-là, c'est que c'est très chic d'avoir des noms anglais. Donc le slut-shaming, c'est le fait, oui, il faut pas dire à une fille que si elle a un truc trop court ou trop moulant, etc. C'est le slut-shaming, c'est littéralement, c'est faire honte à la salope. Et il y a de temps en temps des manifestations qu'on appelle les slut walk, donc les marches des salopes. Donc c'est les filles et les femmes, elles y vont, elles sont habillées genre voilà en mini jupe, hyper sexy, etc. Et c'est cette ignorance en fait. Par exemple, le slogan « Ne nous dites pas comment nous habiller, dites aux hommes de pas nous violer ». Non mais effectivement, il faut que les hommes ne violent pas et jamais une femme n'est responsable de son viol, etc. Mais ça, c'est par exemple une nuance qu'apporte quelqu'un comme Samantha Geimer, donc, qui a été, en plus d'être signataire de la tribune, qui a 13 ans, a été violée par Polanski. Elle dit qu'effectivement, une femme n'est jamais coupable de son viol, mais qu'on peut quand même s'interroger sur la responsabilité qu'on a eu de se mettre dans une telle situation qui nous a mis en danger. Et ça, elle le dit, voilà, elle le dit très bien dans son livre. Une fille, c'est la fille, parce que c'est the girl en anglais, que pour le coup, je recommande à tout le monde la lecture. Elle explique très bien que, effectivement, elle n'a pas été coupable d'avoir été violée par Polanski, mais elle s'est mise dans une situation où elle a couru un risque. C'est exactement ce que tu disais, la liberté, c'est aussi prendre des risques, et est-ce que tu assumes de prendre ce risque-là à ce que le jeu en vaut la chandelle? Et c'est effectivement tout un impensé dans le féminisme que j'aime pas, c'est on veut tout, on prend tout, mais on n'a aucune responsabilité et aucune conséquence, et je trouve ça très, en résumé, très idiot en fait.
Bah écoute, ça nous fait une très bonne transition vers la fameuse tribune que je vais vous lire. Alors, elle a été publiée d'abord dans Le Monde le 8 janvier 2018 avec le titre suivant « Des femmes libèrent une autre parole ». Et ensuite, sur Internet avec un autre titre, « Nous défendons une liberté d'importuner indispensable à la liberté sexuelle ». Alors, je pense qu'ils n'ont pas choisi le titre pour rien, parce qu'en tout cas, comme on dit, ça a fait un gros buzz. Et je vais citer avant de la lire les rédactrices du texte, donc Sarah Chiche, Catherine Millet, Catherine Robbe-Grillet, Peggy Sastre et Abnous Chalmani. Et si on a fini par appeler ce texte Tribune Deneuve, eh bien c'est parce que Catherine Deneuve elle-même faisait partie de ses signataires. Le viol est un crime, mais la drague insistante ou maladroite n'est pas un délit, ni la galanterie une agression machiste. À la suite de l'affaire Weinstein, a eu lieu une légitime prise de conscience des violences sexuelles exercées sur les femmes, notamment dans le cadre professionnel où certains hommes abusent de leur pouvoir. Elle était nécessaire, mais cette libération de la parole se retourne aujourd'hui en son contraire. On nous intime de parler comme il faut, de taire ce qui fâche, et celles qui refusent de se plier à de telles injonctions sont regardées comme des traîtresses, des complices. Or, c'est là le propre du puritanisme que d'emprunter, au nom d'un prétendu bien général, les arguments de la protection des femmes et de leur émancipation pour mieux les enchaîner à un statut d'éternelle victime, de pauvres petites choses sous l'emprise de phallocrates démons, comme au bon vieux temps de la sorcellerie. De fait, MeToo a entraîné dans la presse et sur les réseaux sociaux une campagne de délation et de mise en accusation publique d'individus qui, sans qu'on leur laisse la possibilité ni de répondre ni de se défendre, ont été mis exactement sur le même plan que des agresseurs sexuels. Cette justice expéditive a déjà ses victimes, des hommes sanctionnés dans l'exercice de leur métier, contraints à la démission, etc., alors qu'ils n'ont eu pour seul tort que d'avoir touché un genou, tenté de voler un baiser, parlé de choses intimes lors d'un dîner professionnel ou d'avoir envoyé des messages à connotation sexuelle à une femme chez qui l'attirance n'était pas réciproque. Cette fièvre à envoyer les porcs à l'abattoir, loin d'aider les femmes à s'autonomiser, sert en réalité les intérêts des ennemis de la liberté sexuelle, des extrémistes religieux, des pires réactionnaires et de ceux qui estiment, au nom d'une conception substantielle du bien et de la morale victorienne qui va avec, que les femmes sont des êtres à part, des enfants à visage d'adultes réclamant d'être protégés. En face, les hommes sont sommés de battre leur coulpe et de dénicher, au fin fond de leur conscience rétrospective, un comportement déplacé qu'ils auraient pu avoir voici 10, 20 ou 30 ans et dont ils devraient se repentir. La confession publique, l'incursion de procureurs autoproclamés dans la sphère privée, voilà qui installe comme un climat de société totalitaire. La vague purificatoire ne semble connaître aucune limite. Là, on s'en cire un nu des Gonchil sur une affiche. Ici, on appelle au retrait d'un tableau de Balthus d'un musée au motif qu'il serait une apologie de la pédophilie. Dans la confusion de l'homme et de l'œuvre, on demande l'interdiction de la rétrospective Roman Polanski à la Cinémathèque et on obtient le report de celle consacrée à Jean-Claude Brissot. Une universitaire juge le film Blow Up de Michelangelo Antonioni misogyne et inacceptable. À la lumière de ce révisionnisme, John Ford, la prisonnière du désert, et même Nicolas Poussin, l'enlèvement des Sabines, n'emmènent pas large. Déjà, les éditeurs demandent à certaines d'entre nous de rendre nos personnages masculins moins sexistes, de parler de sexualité et d'amour avec moins de démesure, ou encore de faire en sorte que les traumatismes subis par les personnages féminins soient rendus plus évidents. Au bord du ridicule, un projet de loi en Suède veut imposer un consentement explicitement notifié à tout candidat à un rapport sexuel. Encore un effort, et deux adultes qui auront envie de coucher ensemble devront au préalable cocher via une appli de leur téléphone un document dans lequel les pratiques qu'ils acceptent et celles qu'ils refusent seront dûment listées. Le philosophe Ruwenn Ogien défendait une liberté d'offenser indispensable à la création artistique. De même, nous défendons une liberté d'importuner, indispensable à la liberté sexuelle. Nous sommes aujourd'hui suffisamment avertis pour admettre que la pulsion sexuelle est par nature offensive et sauvage, mais nous sommes aussi suffisamment clairvoyantes pour ne pas confondre drague maladroite et agression sexuelle. Surtout, nous sommes conscientes que la personne humaine n'est pas monolithe. Une femme peut, dans la même journée, diriger une équipe professionnelle et jouir d'être l'objet sexuel d'un homme sans être une salope ni une vile complice du patriarcat. Elle peut veiller à ce que son salaire soit égal à celui d'un homme, mais ne pas se sentir traumatisée à jamais par un frotteur dans le métro, même si cela est considéré comme un délit. Elle peut même l'envisager comme l'expression d'une grande misère sexuelle, voire comme un non-événement. En tant que femme, nous ne nous reconnaissons pas dans ce féminisme qui, au-delà de la dénonciation des abus de pouvoir, prend le visage d'une haine des hommes et de la sexualité. Nous pensons que la liberté de dire non à une proposition sexuelle ne va pas sans la liberté d'importuner, et nous considérons qu'il faut savoir répondre à cette liberté d'importuner autrement qu'en s'enfermant dans le rôle de la proie. Pour celles d'entre nous qui ont choisi d'avoir des enfants, nous estimons qu'il est plus judicieux d'élever nos filles de sorte qu'elles soient suffisamment informées et conscientes pour pouvoir vivre pleinement leur vie sans se laisser intimider ni culpabiliser. Les accidents qui peuvent toucher le corps d'une femme n'atteignent pas nécessairement sa dignité et ne doivent pas, si durs soient-ils parfois, nécessairement faire d'elle une victime perpétuelle. Car nous ne sommes pas réductibles à notre corps, notre liberté intérieure est inviolable, et cette liberté que nous chérissons ne va pas sans risque ni sans responsabilité. Quel beau texte. Kelly, bravo.
je ne suis qu'un cinquième de cela, mais c'est vrai que ouais, c'est en plus je l'avais jamais entendu lu et c'est très bien lu et c'est et chapeau l'artiste. Hein.
chapeau les artistes. Mais parle-nous un peu des réactions à la tribune.
Ah bah les réactions en fait elles sont arrivées tout de suite et en fait dès le lendemain il y a eu une tribune contre-tribune. Qui a été portée notamment par Caroline de Haas. Donc, c'était publié sur France TV Info. Donc, il y avait une trentaine de personnalités et de membres d'associations. Donc, c'était le chapeau qui réagissent mercredi 10 janvier sur France Info aux arguments du texte « Sans femmes défendant la liberté d'importuner ». Dès le chapeau, il y a un contresens parce que c'est « Défendant la liberté d'importuner des hommes ». Et nos auditeurs ont renoté dans ta si belle lecture que jamais dans le texte, on ne limite la liberté d'importuner aux hommes. C'était à la fois le premier contresens et ça a été le point de départ de toutes les projections qui ont été collées sur ce texte. En fait, très vite, dès le lendemain, on n'a plus parlé de ce que le texte disait, mais de ce qu'on voulait lui faire dire, et en fait à tort. Donc typiquement, dans cette contre-tribune, on va dire, moi je suis la tribune de Neuve, ça, ça va être la tribune de Haas. Donc voilà, c'est que du contresens et c'est d'autant plus amusant qu'en fait, les paragraphes commencent par ce qui est présenté comme des citations de la tribune, mais en fait, qui ne sont pas dans le texte. Par exemple, il y a « on risquerait d'aller trop loin », jamais on dit ça. « On ne peut plus rien dire », entre guillemets, jamais on dit ça. « C'est du puritanisme », oui, on le dit un peu, mais c'est pas non plus comme ça. « On ne peut plus draguer », pareil, c'est pas dit. « C'est de la responsabilité des femmes », et ça, c'est le plus grave. Et je vais citer cette tribune. Les signataires de la tribune parlent de l'éducation à donner aux petites filles pour qu'elles ne se laissent pas intimider. Les femmes sont donc désignées comme responsables de ne pas être agressées. 3 ans après, je reste la mâchoire décrochée. Je ne sais pas qu'est-ce qui, dans le texte, peut faire croire qu'on dit que les femmes sont responsables de leurs agressions. Et pour moi, en fait, le souvenir le plus saillant, c'est le lendemain de la publication de la tribune. Laurence Rossignol était invitée sur France Inter, à la matinale de France Inter. Là j'ai fait un petit aparté. C'était... surtout moi, mais aussi les autres rédactrices de la tribune, on n'avait pas du tout mesuré le buzz que ça allait faire, et on pensait qu'en fait que la tribune était publiée et on avait fini le boulot en fait. Catherine Millet, tout à l'heure, en parlera certainement. On avait beaucoup travaillé voilà pour avoir les signatures et tout, et on arrive le 8, le 9, genre c'est bon, on est en vacances. Pour le coup, c'était pas du tout des vacances parce que j'étais en retard sur un boulot et j'avais tout fermé, mon téléphone, mes réseaux sociaux, etc. J'avais dit bon voilà, j'ai fait le boulot là pendant 3 jours, vous me laissez, j'ai un bouclage, le bouclage d'une traduction. Il y a eu un processus d'agit-prop assez classique, dans le sens où on croyait que c'était un sujet sur lequel tout le monde était d'accord. On a été des voix dissidentes qui se sont fait entendre, et tout de suite, il fallait en fait qu'on s'assoie dessus, qu'on brouille notre message, et notamment en véhiculant des mensonges qui font peur. Et ça, c'est la sœur jumelle de l'agit-prop, c'est la panique morale. L'exemple qui est très saillant pour moi, c'était Laurence Rossignol, qui à la matinale de France Inter, donc le truc énormément écouté, etc.,
C'est une sénatrice PS, ouais, c'est ça ?
Tout à fait, une sénatrice PS qui a été aussi ministre des femmes. Enfin, ben, je ne sais pas exactement l'intitulé de son ministère, parce que c'est le genre de truc qui change.
Ah, mais c'est avec elle que j'ai discuté sur LCI.
Tout à fait, c'est elle.
L'autre fois, oui, d'accord. Enfin, voilà. Discuter. Oui. Oui, d'accord.
C'est Léa Salamé qui lui cite justement la tribune de Haas en disant que on fait l'apologie du viol. Elle lui pose la question. Elle dit, est-ce que vous trouvez que Catherine Deneuve fait l'apologie du viol? Et là, en fait, Laurence Rossignol dit, esquive la question. Donc, elle ne dit pas non. Alors, parce que c'est le truc qu'elle aurait dû dire si elle avait eu un peu d'honnêteté. Non, la tribune ne fait pas l'apologie du viol, donc elle esquive la question. Et pour moi, voilà, cette intervention de Laurence Rossignol, qui ne contredit pas Léa Salamé quand elle dit que, conformément à ce que dit Caroline de Haas, notre tribune fait l'apologie du viol, là, c'était parti, en fait. C'est plus possible d'argumenter. On avait eu la naïve intention de parler, pour parler physiologie cérébrale, de parler au cortex frontal, et en fait, là, c'est l'amygdale qui s'est excitée partout, et... C'est très représentatif des projections qu'il y a eu sur ce texte et qui a fait que, alors qu'on avait peut-être naïvement le projet d'ouvrir un débat, une discussion, etc., en fait, voilà, tout ce qu'on a fait, c'est creuser des tranchées et ça ne s'est pas arrangé depuis, quoi.
Mais aussi, cette réaction de panique morale, elle vient de la peur. Je pense que ces personnes, donc tu cites Caroline de Haas et d'autres, n'auraient pas réagi de cette façon si elles n'avaient pas été terrorisées. Parce que pendant des semaines, voire des mois, elles étaient, disons, les représentantes de la pensée dominante. Il y avait très peu de voix discordantes. Et c'est toujours la même chose. Quand les gens n'ont jamais l'habitude d'être critiqués, ils deviennent de plus en plus paresseux, ils ne savent plus répondre aux arguments. Et surtout, une fois qu'il y a une vraie critique qui arrive et qui est intelligente, je pense qu'ils perdent leurs moyens. Enfin, pour moi, leur réaction dénotait vraiment une forme de panique, et pas seulement morale, une panique intellectuelle. Parce qu'aussi, il n'y avait quand même pas beaucoup de répondants intellectuels de leur côté.
Je suis assez d'accord. Et encore récemment, donc c'est pour ça aussi que je parlais de longue traîne de MeToo et aussi c'est la longue traîne de cette tribune. Quand je lisais le génie lesbien d'Alice Coffin qui est sorti il y a quelques semaines, elle fait deux références à la tribune. Pour des questions militantes, elle s'attaque jamais aux femmes. Et ça m'a fait beaucoup rire parce qu'elle dit, voilà, cette règle, je l'applique à mes interventions publiques, je ne m'en prends pas aux femmes, même si je suis en désaccord avec elles, même si elles cherchent à me nuire, même si elles écrivent des tribunes dans Le Monde titrées, entre guillemets, « Nous défendons la liberté d'être importunées ». Ça, c'est le premier truc drôle. Le premier truc drôle, c'est qu'elle se trompe sur le titre. Et le deuxième truc drôle, c'est que ce passage arrive juste avant un chapitre où elle s'auto-lance des fleurs en disant que c'est une super journaliste média, qu'elle connaît très bien les médias, etc. Et voilà, elle est même pas capable de pas se gourer dans le titre. Et la deuxième chose, elle en reparle dans le chapitre 5, je la cite, « La frousse de passer pour une lesbienne reste forte ». Et donc, elle revient à la tribune. Il y a eu l'épisode de la tribune publié par Le Monde. Quand j'ai lu ce texte signé par 90 femmes, donc là encore, si c'est pas 90, la première mouture a été signée par 104 femmes, qui réclamaient en janvier 2018 une liberté d'importuner, à chaque mot, à chaque phrase, je les ai entendues clamer, nous ne sommes pas lesbiennes, 3 points d'exclamation, n'ayez pas peur, petits hommes chatons, nous vous aimons encore. Outre que, je répète que le texte avait été initialement signé non pas par 90 mais par 104 femmes, en fait, il n'y avait pas que des hétéros dans les signataires et les co-rédactrices. Et je parlerai pour le cas, pour moi, qui est le plus emblématique, parce que surtout c'est public, c'est Catherine Ongrayet, qui est aujourd'hui à 90 ans, qui est en couple avec une femme depuis plus de 10 ans et qu'elle a épousée en 2018.
Oui, mais Alice Coffin est une grande journaliste. Écoute, Peggy, non mais c'est lamentable. Sans transition, Peggy, c'est le moment de passer à la contrariété du jour. Je te laisse la parole.
Encore une fois, je fais dans le très joyeux parce que je vais encore parler d'un suicide et d'un suicide lié à une campagne de diffamation et une campagne, voilà, les guerres culturelles qu'on ne connaît que trop aujourd'hui. Mais c'est pas seulement sur la mort de cette personne, donc, qui est Mike Adams, qui était professeur de criminologie à l'université de Caroline du Nord à Wilmington. Et ce qui m'a amené à proposer cette contrariété aujourd'hui, c'est un article de Greg Lukianoff. Donc, Greg Lukianoff, c'est le président de FIRE, donc F-I-R-E, qui est une association américaine qui lutte pour la liberté d'expression des gens qui travaillent dans le milieu scolaire et en particulier universitaire. Donc, il raconte qu'il a rencontré la première fois Mike Adams en 2001 parce qu'il était accusé par un étudiant de lui avoir mal parlé pendant un cours. C'était juste après les attentats du 11 septembre. L'étudiant remettait en question en disant que les attentats étaient la faute du gouvernement américain. Donc voilà, visiblement, Mike Adams s'était un peu énervé auprès de ses étudiants et l'étudiant avait porté plainte. Donc c'est là que Greg Lukianoff a la première rencontre avec Mike Adams et il raconte comment, pendant leur conversation, il lui a parlé d'un livre de Lenny Bruce. Donc Lenny Bruce était un comédien de stand-up, un humoriste qui aujourd'hui ne pourrait absolument plus faire ce qu'il faisait parce que c'était très provocant, politiquement incorrect, tous les tabous y passaient dans ses spectacles. Et donc, voilà, Greg Lukianoff mentionne à Mike Adams un livre donc, de Lenny Bruce qui s'appelle « How to talk dirty and influence people ». Donc voilà, comment parler mal et influencer les gens, c'est une référence au très célèbre bouquin de self-help de Dale Carnegie, « Comment se faire des amis » ou influencer, et influencer les gens aussi. Et donc là, Greg Lukianoff raconte comment il s'en veut d'avoir créé en fait un monstre, parce qu'ensuite Mike Adams est devenu un chroniqueur conservateur, justement très provocateur. Il lui a dit clairement que c'était après avoir lu ce livre. Et pour terminer sur ma contrariété, enfin c'est pas vraiment une contrariété, c'est le fait que j'ai pas du tout été contrarié par cet article. J'ai été très ému et ce sont des sujets qui me poursuivent depuis très longtemps et c'est pas en 2021 que ça va s'arrêter. C'est comment est-ce que, même si moi je suis pas du tout affectée par les guerres culturelles, les meutes sur les réseaux sociaux, parce que le fait est que j'ai un cerveau autistique qui est là-dessus vacciné contre l'influence sociale et les pressions sociales et les effets de meute, etc. Mais Lukianoff raconte comment est-ce que cette personne, donc ce Mike Adams, avait toute l'apparence voilà, du provocateur, du type sur lequel tout glisse, etc. Mais en fait, comment est-ce qu'il s'est donné la mort comme ça, petit à petit? Il faut toujours se rappeler qu'on est face à des gens et que c'est... Il faut faire attention, quoi.
Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'il s'est suicidé 20 ans après cette histoire, en fait.
Non, mais il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. En fait, 2001, c'est le premier, c'est la première fois. Mais en fait, depuis 2001, il a eu plusieurs attaques, plusieurs campagnes de diffamation, etc. Et la dernière, un mois avant sa mort, il s'est suicidé en août et c'était en juillet 2020. Il a fait une blague sur Twitter contre le confinement du Covid. Il s'adressait à une gouverneure en disant « Fermez pas les commerces, fermez des trucs inutiles comme les départements d'études féministes.
» Ah oui, d'accord, mais je comprends ça. C'était très provocant.
Après ce tweet, il a été forcé à non pas à la démission, mais à la retraite anticipée.
D'accord. Oui, enfin, c'est très émouvant ce que tu racontes. Alors, ma contrariété porte sur un sujet bien différent, même s'il y a un petit rapport qui est comme la pandémie de Covid-19. En fait, c'est une humeur aussi un peu générale. Ça concerne les réactions actuelles du monde culturel vis-à-vis des mesures sanitaires qui ont été prises. En fait, les salles de cinéma et de théâtre auraient pu réouvrir au moment des fêtes. Et puis finalement, le gouvernement a décidé qu'elles resteraient fermées, alors que les magasins ont réouvert. Et depuis ce moment, eh bien, le monde culturel, donc c'est plutôt le théâtre, le cinéma, la chanson, est en ébullition, a manifesté contre les mesures. Et on entend ses représentants un peu toute la journée, en fait, à la radio ou à la télévision, expliquer à quel point ils sont maltraités. Alors, ce qui me contrarie, ce sont deux choses. La première, c'est que j'ai l'impression que le milieu culturel ne se rend pas compte à quel point il est subventionné en France. Aujourd'hui, quelqu'un, par exemple, qui est soit intermittent du spectacle, soit un comédien qui exerce un autre métier, a de fortes chances d'être aidé par l'État. Ce qui n'est pas du tout le cas des artisans ou des commerçants qui n'ont pas le même statut. Donc moi, je suis un petit peu gênée par cette réaction que j'ai tendance à trouver un petit peu égoïste. Et par ailleurs, il y a eu tout ce débat sur ce qu'on considère être une activité essentielle ou non. Alors, je comprends que de la part du monde culturel, il y ait une gêne vis-à-vis du fait que les magasins sont ouverts. Et qu'on peut aller acheter des choses aujourd'hui avant Noël et qu'on ne peut pas aller au théâtre. Je comprends qu'il y a un sentiment d'injustice, d'autant que voilà, des mesures sanitaires strictes ont été prises dans les salles de spectacle. En revanche, je trouve qu'il y a toujours cette petite condescendance de la part du monde culturel à l'égard des marchands, des commerçants. J'entendais récemment un de ses représentants à la radio qui expliquait que ce serait mieux de fermer tous les magasins et comme ça les gens seraient obligés obligée d'aller au théâtre, je trouvais ça légèrement liberticide, et qui disait aussi qu'il ne comprenait pas comment les gens pouvaient aller se jeter dans les magasins parce que c'était beaucoup plus essentiel d'aller au théâtre qu'aller faire des courses. Donc il y a toujours ce petit mépris vis-à-vis de ce qui est marchand, de ce qui est commercial, et je trouve que c'est quand même un petit peu déplacé quand on est subventionné, parce que quand on est subventionné, en effet, on n'a pas à se préoccuper de la vente. Et peut-être que ça ferait du bien aussi à ce milieu très subventionné de l'être moins, pour qu'ils comprennent en fait que la concurrence, c'est quelque chose de difficile. Après, la concurrence, ça produit aussi de très bonnes choses. Voilà pour ma contrariété du jour.
Bon, je crois qu'on a entendu le même type à la radio, parce que moi aussi, ça m'a... le côté, genre, faut fermer les commerces et ouvrir les trucs culturels. Et ça m'a fait penser aussi au début, tous les chouinages qu'il y avait eu sur les « Ah, les librairies sont fermées ». J'ai jamais entendu quelqu'un parler des bibliothèques, par exemple, alors que les bibliothèques, c'est gratuit d'aller lire là-bas, quoi.
Et oui, et en fait, en plus, c'est derrière la question culturelle se cache la question commerciale, donc c'est encore pire, en fait. On se moque des magasins qui font du commerce, mais au fond, les librairies ont la même préoccupation, ce qui est tout à fait normal, d'ailleurs, mais elles ne l'assument pas.
Puis aussi, pour terminer, le truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est que, rire jaune, c'est que dans cette même interview qu'on a entendue tous les deux, ils disaient, ah oui, c'est nous les pires, c'est nous qui sommes les plus malheureux, et alors, parlez pas des restaurateurs et tout, qui, eux, crèvent littéralement, quoi.
Oui, mais c'est ça. Je sais que tu n'aimes pas le mot, mais je trouve ça un peu indécent.
je le tolère pour aujourd'hui, comme c'est ton anniversaire.
Merci. Eh bien, écoute, c'est le moment de conclure cette première partie qui était vraiment passionnante, enfin, en tout cas, de mon point de vue, et de passer à la seconde. Nous accueillons aujourd'hui Catherine Millet. Catherine Millet, bonjour.
Bonjour.
Et merci de participer à cette émission anniversaire.
Oui, bon anniversaire à toutes.
C'est l'anniversaire de la dite Tribune de Neuve, qui est en fait la vôtre, avec entre autres Peggy Sastre ici présente. Catherine Millet, vous êtes actuellement directrice de la rédaction d'Art Presse. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Textes sur l'art conceptuel en 1972, Yves Klein en 1982 ou encore Dali et moi en 2005 et Le corps exposé en 2011. En 2011, apparu aux éditions Gallimard, Catherine Millet, d'Art Presse à Catherine M, entretien avec Richard Lédier. En 2001, vous publiez un récit autobiographique, La vie sexuelle de Catherine M au Seuil, qui connaît un succès mondial. Vous avez poursuivi ce cheminement autobiographique en publiant Riquet à la houppe, Millet à la loupe en 2008. Votre dernier essai, publié en 2017, s'intitule « Aimer Lawrence » aux éditions Flammarion. Vous avez été commissaire de plusieurs expositions, parmi lesquelles Baroque 81, au Musée d'art moderne de la ville de Paris en 1981, ou encore 12 artistes français dans l'espace à Tokyo et Séoul en 1985. Vous avez également été commissaire de la section française de la Biennale de São Paulo en 1989, qui a reçu le Grand Prix du meilleur pavillon, et commissaire du pavillon français pour la Biennale de Venise en 1995. Nous vous invitons aujourd'hui car, par votre parcours et vos prises de position, vous êtes toujours comportée en femme libre. Je n'ose même plus employer ce terme tant il est malheureusement galvaudé aujourd'hui, où l'on confond à mon sens la libération de la parole avec la liberté qui est bien plus complexe. Ainsi, il me semble que par cette tribune et d'autres propos que vous avez pu tenir sur MeToo, vous avez voulu répondre à un message devenu simpliste et automatique, moi aussi, par un autre message, une sorte de « moi non plus », un rappel salutaire que les relations sentimentales suivent des ressorts que le discours actuel se refuse à regarder en face. D'où ma première question, Catherine Millet, pourquoi avez-vous décidé de coécrire cette tribune et pouvez-vous expliquer à nos auditeurs comment cela s'est passé ?
Bien, ça s'est passé, en fait, celle qui a eu l'initiative, c'est Sarah Chiche, qui un jour m'a fait signe, elle m'a envoyé un email ou elle m'a appelé. Et c'était à la suite d'une conversation qu'elle avait eue avec une éditrice, et ça me concernait puisque leur conversation était venue sur la vie sexuelle de Catherine M. Et ce qui avait beaucoup choqué Sarah, c'est que cette éditrice lui avait dit « mais un tel livre ne serait plus publiable aujourd'hui ». Pourquoi ? Parce que il y avait ce mouvement MeToo qui était amorcé, et puis quand même depuis un certain nombre d'années tout un mouvement, pour dire vite, on appellera puritain, qui comme ça se développe. Et donc Sarah m'a proposé qu'on écrive une tribune pour répondre à ce mouvement MeToo. Et puis voilà, et puis Peggy, on en a parlé à Peggy, à Amnou Chemani, et puis voilà, et on s'est retrouvés, et puis aussi avec Catherine Robbe-Grillet, et on s'est retrouvés à faire circuler ce texte entre nous pour vraiment le co-rédiger, quoi. Voilà. C'est né comme ça. Et pourquoi moi j'ai accepté? Alors j'ai accepté, je dis souvent que j'y suis allée presque à reculons, parce que je sais, j'avais l'expérience déjà d'une tribune que j'avais faite aussi avec Catherine Robbe-Grillet d'ailleurs, et puis à l'époque Marcella Yacoub, pour défendre le point de vue des prostituées contre ce qu'on avait appelé à l'époque la loi Sarkozy, qui, de notre point de vue, fragilisait encore plus les prostituées qu'elles ne l'étaient déjà, et ça s'est avéré d'ailleurs aussi. Mais j'avais gardé le souvenir que organiser une pétition comme ça, ça prend beaucoup de temps, parce que voilà, on contacte les gens, on discute avec eux. Moi, je sais que j'ai passé d'ailleurs pour cette tribune-là beaucoup de temps au téléphone avec des amis qui m'appelaient, qui me disaient « Ah, je te signerai bien, mais il y a ça qui me gêne. » Enfin bon, je suis sûre que Peggy a fait la même expérience. Je dis ça, je le précise, parce que je pense qu'il faut être vraiment très motivé quand on se lance dans une affaire comme ça. Parce que, voilà, on investit beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On se confronte à son environnement, à son entourage immédiat. Les amis qui sont d'accord, ça va bien. Mais les amis qui sont moins d'accord, il faut s'expliquer. Donc, voilà, c'est mon souvenir immédiat. Après, il faut assumer. Et là, je dois dire, Peggy en aura aussi le souvenir. Il a fallu qu'on assume vis-à-vis de la presse internationale, parce que ça a eu un écho qu'on n'aurait jamais imaginé, je pense. On voulait que notre point de vue soit entendu, mais on n'imaginait pas que ça irait aussi loin, quoi. Voilà.
Effectivement. Et justement, les réactions ont été aussi rapides que violentes. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ces réactions? Et je me suis toujours demandé comment un texte finalement assez anodin avait pu susciter autant de polémiques.
Il a eu l'effet, auprès d'un grand nombre de gens qui l'ont lu, ce texte, de les soulager. Ils se sont dit « Ah, enfin enfin, une parole un peu différente et je pense surtout un peu nuancée. » Parce qu'en fait, je trouve que notre texte était très bien équilibré, reconnaissant certaines luttes qui restaient à mener aux femmes ou certaines circonstances dans lesquelles elles pouvaient être en effet mises en danger et avec le devoir de les défendre. Mais ce qu'on dénonçait, c'était les excès de cette guerre contre les hommes, quoi, en fait, et les dénonciations rapides et invérifiées, invérifiables, etc., et les effets néfastes que ça pouvait avoir sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il y avait énormément de gens et à travers le monde, puisque j'ai le souvenir, on se partageait le travail, quoi, entre les journalistes américains, les Allemands, les Espagnols, les Sud-Américains, les Italiens qui nous contactaient pour avoir des interviews. Moi, j'ai le souvenir que tous ces journalistes qui m'ont contacté, que j'ai rencontré ou avec qui j'ai eu des discussions à l'époque, commençaient par me dire « Ah, enfin une parole de femme qui est équilibrée, quoi, qui dit des choses que ces gens-là pensaient et puis trouvaient pas forcément à exprimer, quoi. » On a dit tout haut ce ras-le-bol que beaucoup de gens avaient et à travers le monde, puisque c'était un phénomène mondial.
C'est très juste. D'ailleurs, à l'époque, moi, je ne connaissais pas Peggy. Donc, voilà, je ne savais pas du tout que cette pétition était... cette tribune, était en cours et je l'aurais volontiers signée. Mais je me rappelle l'avoir, le matin même, l'avoir lue, parce qu'il y a eu une alerte du Monde, oui. Ou quelque chose comme ça. Oui. Et j'ai eu en effet cette impression de soulagement et d'apaisement aussi, enfin de sentiment aussi qu'il y avait une forme de bon sens quand même qui émergeait malgré tout.
Je pense que le mot bon sens, c'est le mot juste, en fait. Et moi, j'avais testé certains de nos arguments comme ça dans mon entourage auprès de femmes qui sont pas forcément, vous voyez, des intellectuels et qui réagissaient comme ça. Bah oui, bien sûr, c'est le bon sens, quoi. C'est pas parce que un type vous fait un compliment un peu grossier, maladroit, ou même vous met la main aux fesses, que pour autant on pense que c'est un violeur. Voilà, c'est ça. Donc ça paraissait tellement évident pour moi et pour tellement de femmes autour de moi. Ce qu'on a du mal à expliquer, c'est l'hystérie qu'a soulevé ce mouvement MeToo.
Mais c'est vrai que ce qu'on a constaté à l'époque, c'était que les réactions les plus sévères à votre rencontre venaient de femmes et notamment de féministes. Et est-ce que vous avez l'impression que la polarisation entre ces féministes et d'autres femmes comme vous et Peggy et les signataires de cette tribune s'est accentuée ou bien elle s'est un peu apaisée depuis la publication de la tribune ?
Bah, je dirais, je ne sais pas si je dois dire heureusement ou malheureusement, mais depuis cette tribune, il y a d'autres soucis de préoccupation qui sont intervenus et qui ont une gravité sans commune mesure avec ce que dénonçait pour une grande part le mouvement MeToo. Donc, je pense que ça s'est apaisé parce que les gens ont d'autres choses qui les occupent, qui les préoccupent. Mais d'ailleurs, je me dis, moi, une des choses qui me choquait dans ce mouvement MeToo, c'était son narcissisme incroyable. On avait l'impression que, tout d'un coup, plein de femmes ne se préoccupaient plus que du comportement des hommes autour d'elles, plus ou moins satisfaisant, plus ou moins agressif ou pas. Enfin bon, et que tout le reste est d'un point de vue féministe. La condition de femmes ailleurs dans le monde qui sont dans une situation certainement plus grave que ces femmes qui se font pincer les fesses dans un couloir de bureau, je dois dire que c'est peut-être ça qui me choquait le plus. Moi, j'appartiens à une génération qui militait pour des grandes causes, qui était, quand j'avais 20 ans, c'était la guerre au Vietnam et des choses comme ça, et les gens étaient mobilisés par des questions comme ça. Aujourd'hui, tout ça n'existe plus, les gens ne se préoccupent absolument pas de ce qui passe ailleurs dans le monde. Je sais pas, ils se regardent pas le nombril, ils se regardent l'arrêt des fesses, mais c'est ça qui, pour moi, était le plus choquant, cet égoïsme, ce narcissisme. Moi, j'ai fait une tournée de conférences sur le sujet en Amérique latine, par exemple, il y a 2 ans maintenant. Je peux vous dire qu'à l'époque, dans les pays où j'allais, par exemple en Argentine, cette question de l'avortement n'est toujours pas réglée pour les femmes. Bon, il me semblait que là, les luttes sont réelles et les conditions des femmes, quand même, beaucoup plus difficiles que dans nos régions, quoi.
Alors, d'une certaine façon, ce que vous dites, hein, c'est que MeToo ne posait pas seulement problème par ses excès, mais aussi par sa nature même, en fait, par son essence.
Oui, parce que moi, je vais vous dire, je pense que ce mouvement, il disait une peur que je considère d'ailleurs comme légitime devant la sexualité. Oui, la sexualité, c'est quelque chose qui nous déstabilise. Oui, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre et qui nous vient de nous-mêmes et qui est soulevé par des pulsions, et les pulsions, ça ne se contrôle pas. Et oui, c'est vrai, on peut avoir peur de la sexualité, et l'humanité a vécu avec cette peur de la sexualité. Bon, alors, elle, suivant les époques, suivant les civilisations, suivant les cultures, elle négocie plus ou moins bien cette peur, mais je dirais oui, elle est légitime. Bon, maintenant, ces moyens de défense contre cette peur ont inventé ces femmes, et principalement, je pense quand même, des jeunes femmes, eh bien, pour moi, elles sont inadéquates. Ça les met dans un refus de ce qui permet justement, souvent, d'aménager cette peur, qui est le jeu sexuel, qui est le flirt. Je pense qu'il y a dans ce qui entoure l'acte sexuel lui-même, ou ce qui y mène ou n'y mène pas, d'ailleurs, il y a une façon d'accommoder justement cette déstabilisation terrible que représente le plaisir, quoi, la jouissance. Bon. Et en fait, elle se prive de ça. On est en France, Dieu sait si je me le suis entendu dire après la sortie de la vie sexuelle, qui est le pays du libertinage. Alors, tout le monde n'est pas Casanova, mais je pense qu'il y a dans ce jeu, les paroles que les hommes adressent à des femmes peuvent aussi adresser des paroles à des hommes, ce jeu de gestes qui aboutit, qui n'aboutit pas, etc. Il y a là tout un jeu de séduction, d'approche, etc., qui permet justement d'acclimater comme ça cette chose qui nous dépasse un peu et qui est la pulsion sexuelle. Donc voilà de quoi elle se prive en fait. Elle se prive même justement de l'instrument qui nous permet de bien vivre la sexualité.
Sur les questions culturelles, au moment de la tribune, il y a beaucoup de médias anglo-saxons qui avaient présenté la tribune, en fait, comme vous disiez, comme typiquement française. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que sa réception a finalement été meilleure dans d'autres pays, et en particulier latin? Vous disiez que voilà, vous avez fait cette tournée en Amérique du Sud. Moi aussi, j'ai eu de la presse très en vue en Amérique du Sud, etc. Quand, au moment de la tribune, il y a eu cette interview que vous aviez fait en décembre 2017, pardon, sur France Culture, où vous aviez déclaré « c'est mon grand problème, je regrette beaucoup de ne pas avoir été violée parce que je pourrais témoigner que du vel on s'en sort ». Donc ça avait suscité la polémique en France, et vous aviez répondu par un texte qui était à l'origine dans El País et que Le Point avait repris. Quel est votre point de vue sur les différences culturelles que cette tribune a pu mettre en lumière?
Oui, moi j'ai eu moins d'expérience en effet avec le monde anglo-saxon. Enfin, quoique je me souviens d'avoir été pas mal interrogée par des journalistes allemands, ou allemandes d'ailleurs plutôt. Mais c'est vrai que plutôt les pays latins, l'Espagne, l'Italie et puis l'Amérique latine qui, de mon point de vue à moi, a très bien réagi. Bon, maintenant j'hésite toujours à rentrer, vous savez, dans ces stéréotypes culturels, les anglo-saxons, les latins, etc. Bon, parce que moi aussi, alors par exemple avec la vie sexuelle, la vie sexuelle de Catherine M, j'avais eu par exemple, contrairement à ce que autour de moi certains craignaient, une très bonne réception aux États-Unis, par exemple. Bon. Donc tout ça est toujours assez à nuancer. Moi, j'aime pas trop catégoriser les gens de cette façon-là.
Alors, avec la publication cette année de livres comme celui de Pascal Bruckner sur le mâle blanc, d'Éric Brion, Le premier porc, balancé par Sandra Muller et qui a obtenu la condamnation de celle-ci pour diffamation, ou encore de David Doucet sur la mort sociale, qui lui a été inspiré par sa propre expérience avec l'affaire de la Ligue du LOL, certains estiment que le vent a tourné, qu'on se rend davantage compte des excès que des mouvements comme MeToo ou Balance ton porc ont pu susciter et du mal qu'ils ont pu causer à certains hommes. Alors, est-ce que vous partagez ce constat et est-ce que vous pensez que la tribune y a aidé?
Je crois qu'on est revenu plutôt, je dirais, à un régime plus normal, quoi. En fait, moi, ce qui m'a frappé dans le mouvement MeToo, c'était l'incroyable instrumentalisation qui avait été opérée par la presse et notamment par Libération et par Le Monde, où on avait l'impression qu'il y avait quasiment des cellules créées à l'intérieur des journaux pour promouvoir ce mouvement MeToo et aller chercher dans toutes les poubelles des réseaux sociaux la moindre petite histoire à faire mousser. Moi, j'étais très très choquée, par exemple, d'avoir lu à l'époque dans Le Monde des articles sur des affaires où les seuls témoignages sur lesquels les journalistes s'appuyaient étaient tirés des réseaux sociaux quand même. Bon, je me disais, mais ça veut dire quoi? Que la presse écrite, respectable, se fait le relais des réseaux sociaux. Donc moi, c'est ça aussi qui m'avait décidé, vous me posiez la question au départ, qui m'avait décidé à réagir au travers de cette tribune. Alors heureusement, c'est Le Monde justement qui nous a publié, mais c'est aussi Le Monde qui finalement, après m'avoir encouragé à écrire cette réponse ou à m'expliquer sur cette déclaration à propos du viol, dont je dis en, entre parenthèses, que c'était quand même de la rhétorique, hein, mais enfin, il me semble que pendant cette période, le second degré était un petit peu oublié. Bon, c'est quand même Le Monde qui, m'ayant encouragé à écrire cette réponse, finalement, l'a pas publié, et c'est comme ça que je l'ai publié en Espagne avant que ça revienne au Point. Voilà.
Est-ce que vous dites féministe, et est-ce que ce terme a une quelconque importance pour vous ?
Je crois qu'il en a jamais eu vraiment. Alors, j'ai jamais été militante féministe. En même temps, je peux pas dire que je sois complètement insensible aux questions qui se posent aux femmes spécifiquement. Non, j'ai l'impression que je suis féministe pour qui veut bien me voir comme ça et anti-féministe pour ceux qui me refusent ce qualificatif. C'est pas à moi de me déterminer, je fais ce que j'ai à faire en fait. J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse à ça. Si on me trouve féministe, tant mieux. Moi, je sais que par exemple, quand La Vie sexuelle est sortie, des femmes sont venues me trouver en me disant « Vous savez, je trouve vraiment que votre livre est un livre extrêmement féministe, c'est formidable. Bon. » Et puis d'autres me disaient exactement le contraire. Donc c'est pour ça que j'ai annoncé à me positionner moi-même. De même que, je sais pas, j'aurais pas, je serais bien incapable de me positionner sur l'échiquier politique, comme on dit. Vous voyez, c'est pas que je m'intéresse pas à la politique et que j'ai pas d'opinion sur le sujet, mais je pourrais pas dire que, voilà, je me sens plus proche de tel ou tel parti, par exemple. Bah, alors, c'est un peu la même chose avec les féministes, je crois.
Une question sur l'art maintenant. On a tendance à croire que le monde de l'art, notamment l'art contemporain, est un milieu relativement plus libertaire. En 2009, dans l'art contemporain, histoire et géographie, vous montriez notamment comment l'art contemporain est un espace ouvert, une aire de liberté pour penser et agir différemment quand les idéologies et les systèmes philosophiques qui nous guident sont en crise. Est-ce que vous partagez toujours ce constat aujourd'hui ?
Oui, je le partage quand même. Dans la mesure où ce monde de l'art est extrêmement diversifié. Alors c'est sûr que par rapport à l'époque à laquelle j'ai écrit ce livre, qui commence à s'éloigner dans le temps, par exemple les pouvoirs financiers se font beaucoup plus sentir. C'était impensable même il y a quelques années de voir l'importance que ça a pris. En même temps, c'est pas tout le monde de l'art, c'est pas tout l'art contemporain. Il y a une très grande diversification de ce milieu. Et oui, par exemple, si je pense à la scène parisienne, par exemple, alors vous avez les antennes des grosses galeries internationales, vous avez des très très grosses galeries qui sont en effet, qui représentent à travers de leur activité aussi le poids de la finance sur le monde de l'art, mais vous avez à côté de ça une quantité d'autres galeries, des fois toutes petites, des fois un peu plus grandes, et qui défendent des artistes qui échappent complètement à cette logique financière, par exemple. Et en ce qui concerne la place des femmes, alors je sais qu'il y en a toujours, il y a un certain nombre de femmes qui sont sur des positions très féministes et qui sont très attentives à surveiller, voilà, ces histoires de quotas, par exemple, à trouver qu'il y a toujours moins de ou pas assez de femmes invitées pour telle ou telle grande exposition. La situation a été longtemps assez partagée. C'est vrai que je dirais que pour ce qui est des artistes plasticiennes, quoi qu'il y en a maintenant qui sont très très importantes, y compris d'ailleurs dans le top 10 de celles qui représentent un enjeu financier. Par contre, dans les structures, par exemple, je sais pas, j'ai jamais dénombré, mais il y a peut-être plus de directrices de galeries qu'il n'y a de directeurs. Ça s'est un petit peu renversé ces toutes dernières années, mais il y a eu un moment où vraiment les musées étaient tenus presque essentiellement par des femmes, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, le pouvoir se répartit d'une manière différente, quoi. Il y a le pouvoir administratif, il y a le pouvoir de la création, c'est assez partagé, quoi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, ce qu'on peut constater par rapport à l'histoire, c'est qu'il y a, je crois, quand même depuis longtemps une histoire de l'écriture féminine, enfin de la littérature féminine, c'est plus difficile à écrire cette histoire en ce qui concerne la peinture, par exemple. Il y a moins de grandes figures à travers l'histoire de femmes qui se sont imposées dans ce domaine. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit trans, qu'on soit toute la déclinaison possible aujourd'hui des sexualités, je pense qu'on trouve sa place.
Dans votre dernier livre, donc il est paru en 2017 chez Flammarion, Aimé Lorenz, vous écrivez « Que n'ai-je pas lu et entendu après la publication de La vie sexuelle de Catherine M. Ma sexualité a souvent été qualifiée de masculine, j'ai même dû répondre à la question de savoir si je ne pensais pas être un homme. » Et vous faites remarquer ensuite, ces appréciations démontraient que les mentalités n'avaient pas beaucoup évolué depuis au moins 1928. Donc là, vous citez un roman d'Aldous Huxley qui mettait en scène l'héritière Nancy Cunard, qui était voilà, très, très libre intellectuellement, socialement, sexuellement, etc. Et donc 1928, voilà, c'est aussi l'année de la première publication de l'amende de Lady Chatterley, qui a fait scandale, qui a été saisie par les autorités britanniques pour obscénité, etc. Et c'était une époque aussi où la France semblait incarner un havre de liberté morale et intellectuelle. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres points communs entre notre époque actuelle et celle de D.H. Lawrence ?
Moi, j'aurais presque le sentiment de dire qu'on a régressé. C'est-à-dire que, en tout cas, s'il s'agit de ce mouvement MeToo, comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que les femmes qui s'inscrivent dans ce mouvement ont beaucoup moins de liberté que ces femmes dont parlait Lorenz dans ses romans. Moi, j'ai eu envie d'écrire ce livre sur lui parce que j'ai été très frappée, pratiquement tous, à l'exception d'un seul roman. Tous ces romans ont pour principal héros une héroïne ou des héroïnes. C'est quelqu'un qui s'est énormément intéressé, qui a observé avec beaucoup d'attention les femmes autour de lui, qui étaient la plupart des femmes très éduquées et qui étaient des femmes très féministes à l'époque, certaines impliquées dans les mouvements féministes. Et surtout qui assumait comme ça une liberté sexuelle qu'on rencontre aujourd'hui rarement, en fait, ou qui s'est raréfiée, du moins. Donc c'est pour ça que je dis, j'ai l'impression qu'on a un peu régressé. Alors, bon, c'est toujours un peu bête de parler par généralité, mais enfin, si on me dit qu'aujourd'hui le féminisme, c'est MeToo, alors là, oui, si le féminisme, c'est devenu ça. Comme je disais, c'est un féminisme de femmes qui se défie de la sexualité, voilà, alors que celles des années 20, elles étaient au contraire dans un mouvement qui faisait qu'elles assumaient complètement cette liberté. Et souvent, alors l'autre différence d'ailleurs aussi, je pense que bien souvent ces pionnières comme ça, enfin c'était plus tout à fait des pionnières dans les années 20, mais enfin quand même c'était encore les débuts du féminisme. Elles étaient d'autant plus libres qu'elles avaient à combattre souvent contre un environnement social qui était sûrement pas celui qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qui était sûrement beaucoup plus pris encore dans les rênes de la religion ou beaucoup plus moralisateur qu'aujourd'hui, beaucoup plus, enfin, sûrement moins ouvert quand même sur les questions de la sexualité et même par exemple parfois de la mixité sociale que ça représentait, cette liberté sexuelle pour des femmes. Voilà, elles ont eu à combattre contre cet entourage là qui pouvait que exercer un pouvoir coercitif à leur encontre, alors que aujourd'hui, moi, il me semble que des jeunes femmes qui se contentaient de balancer MeToo comme ça, moi aussi j'ai été harcelée, moi aussi j'ai été agressée, elles se mettent au contraire dans la situation de se conformer à cet entourage plus ou moins réel qu'elles ont trouvé et aussi autour, enfin, sur les réseaux sociaux, voilà. Je pense qu'il y a, ce que je veux dire, c'est que ces féministes des années 20 étaient anticonformistes, alors que les féministes MeToo sont extrêmement conformistes.
Eh bien, voilà une très belle conclusion. Avant de nous quitter, je voulais vous citer un extrait du livre « Persona sexuelle » de Camille Paglia, qui est une féministe que vous devez connaître.
Ah, très bien, oui.
Et aussi philosophe américaine, alors malheureusement trop peu connue en France.
Je vous interromps parce qu'on a publié un très bon article de Sarah Chiche sur ce livre dans Art Press.
Voilà. Tout à fait, je crois que c'était en janvier 2019.
Oui, oui.
Et voilà, donc l'extrait est le suivant. La sexualité et l'érotisme sont un croisement complexe de la nature et de la culture. Les féministes simplifient à l'excès le problème du sexe lorsqu'elles le réduisent à une question de convention sociale. Réajustons la société, éliminons l'inégalité sexuelle, purifions les rôles sexuels et le bonheur et l'harmonie régneront. Ici, le féminisme, comme tous les mouvements progressistes des deux derniers siècles, est l'héritier de Rousseau. Catherine Millet, merci d'avoir rejoint Les Contrariantes.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, hein.
Et rendez-vous à nos auditeurs dans 2 semaines pour le prochain numéro.
C'était Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté, présenté par le magazine Le Point, à retrouver toutes les 2 semaines sur lepoint.fr, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Google Podcasts. Le Point.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.